Chapitre 8. La grande bataille du Cambridge. Tout en reculant, Alexandra ne cessait de se débattre contre cette main crispée dont l'étreinte l'exaspérait. L'antichambre traversée, Victor ferma derrière lui la porte du boudoir. Aussitôt, elle s'écria « Mais c'est odieux, de quel droit osez-vous » Il répéta lentement « L'hôtel est cerné par la police !» Les ripostes qu'il avait prévues lui furent opposées. Mais après, cela m'est indifférent. On relève la liste des Anglais, ils vont être interrogés. Mais c'est une question qui ne concerne pas la princesse Basileïev. Et parmi ces Anglais, il y a M. Beamish. À peine eut-elle un battement de paupières, elle affirma « Je ne connais pas M. Beamish ». « Mais si, c'est un Anglais qui habite cet étage, au numéro 337. »« Je ne le connais pas. »« Vous le connaissez ? Vous m'espionnez donc ?»« Au besoin, oui, pour vous secourir, comme à présent. »« Je n'ai pas besoin d'être secouru, surtout. »« Surtout par moi, voilà ce que vous voulez dire. »« Par personne. »« Mais je vous en supplie, ne m'obligez pas à des explications inutiles. » Nous avons si peu de temps, pas plus de 10 minutes. 10 minutes, vous entendez? J'estime que d'ici à 10 minutes, au plus tard, deux inspecteurs entreront dans la chambre de M. Beamish et le prieront de descendre dans la direction où il se trouva en face du commissaire Moléon. Elle essaya de sourire. Bon, je le regrette pour ce pauvre M. Beamish, mais de quoi donc est-il accusé? D'être un des deux hommes qui se sont évadés du bar de la rue Marbeuf, l'autre étant Arsène Lupin. Son cas est mauvais, dit-elle toujours calme. Si vous avez des sympathies pour ce personnage, téléphonez-lui, avertissez-le. Il jugera ce qu'il doit faire. Les communications téléphoniques sont interceptées. Enfin quoi, fit-elle plus nerveuse, débrouillez-vous avec lui. Il y avait dans le ton de la jeune femme une insolence qui irrita Victor. Il répliqua sèchement « Vous ne comprenez pas bien la situation, madame. Des deux inspecteurs qui, dans 8 ou 10 minutes, frapperont chez Beamish, l'un le conduira à la direction, mais l'autre restera dans la chambre et fouillera. Oh, tant pis pour lui, et pour vous peut-être. Pour moi ?» Elle avait tressauté, indignation, colère, inquiétude. Elle se domina encore et redit « Pour moi, mais quel rapport voyez-vous donc entre cet homme et moi? Ce n'est pas mon ami. » « Peut-être, mais il agit de concert avec vous. Ne le niez pas, je vous en prie, je sais. Oh, je sais plus de choses que vous ne croyez. Du jour où vous avez accepté la perte de votre agrafe et où vous m'avez tendu la main... Comment n'aurais-je pas voulu savoir pourquoi vous attachiez si peu d'importance à des actes de cette sorte? Et ce serait parce que j'en commettrais moi-même. En tout cas, parce que ceux qui en commettent vous intriguent. Et un soir, je vous ai aperçu causant avec cet Anglais. C'est tout? Depuis, j'ai pénétré dans sa chambre et j'ai trouvé... Quoi? Une chose qui m'a renseigné sur vous. Quoi ? Fit-elle avec agitation. Une chose que la police trouvera tout à l'heure. Mais parlez donc. Dans l'armoire du sieur Beamish, précisément au milieu d'une pile de chemises, on découvrira un roulard de soie orange et vert. Quoi ? Que dites-vous ? Dit-elle en se redressant. Un foulard de soie orange et vert, le foulard avec lequel fut étranglée Lise Masson. Je l'y ai vu, il est à cet endroit, dans l'armoire de l'Anglais. D'un coup, la résistance de la princesse Basileïev s'effondra. Debout encore, mais vacillante, effarée, les lèvres qui tremblaient, elle bégaya. Mais c'était pas vrai, c'est pas possible. Il continua implacable. « Je l'y ai vu. C'est le foulard que l'on cherche. Vous avez lu les journaux, le foulard qu'Élise Masson portait toujours au cou le matin chez elle. Découvert entre les mains de l'Anglais, il établit son intervention indiscutable dans le crime de la rue de Vaugirard et l'intervention d'Arsène Lupin. Et s'il y a ce foulard, n'y a-t-il pas aussi d'autres preuves qui dévoileront la personnalité réelle de l'autre personne, de la femme ? Quelle femme ? Dit-elle entre ses dents. Mais leur complice, celle que l'on a rencontrée dans l'escalier à l'heure du crime, celle qui a tué. Elle se jeta sur Victor, et dans un élan qui était à la fois un aveu et un cri de protestation violente, elle s'exclama « Mais elle n'a pas tué. J'affirme que cette femme n'a pas tué. Et l'horreur du crime, horreur du sang et de la mort, elle n'a pas tué. Qui a tué en ce cas ?» Elle ne répondit point. Les sentiments se succédaient en elle avec une incroyable rapidité. Son exaltation se dissipa et fit place à un accablement soudain. D'une voix si faible qu'il pouvait à peine l'entendre, elle chuchota. « Oh, tout cela importe peu. Pensez de moi ce que vous voulez, je m'en moque. D'ailleurs, je suis perdue. Tout se tourne contre moi. Mais pourquoi Bimiche a-t-il gardé ce foulard? Il était convenu qu'il s'en débarrasserait d'une façon ou de l'autre. Non, je suis perdu. Pourquoi partez? Rien ne vous empêche de partir, vous. Non, dit-elle, je ne peux pas, je n'en ai pas la force. Alors aidez-moi. À quoi? À le prévenir, lui? « Mais comment ? Je m'en charge. Mais vous ne réussirez pas. Si. Vous reprendrez le foulard ? Oui. Et que deviendra Bimiche ? Je lui donnerai le moyen de s'évader. » Elle s'approcha et Victor l'observa un instant. Elle reprenait courage. Ses yeux s'adoucissaient et voilà qu'elle souriait presque devant cet homme, si âgé qu'il fût, mais sur qui elle croyait exercer son pouvoir de femme. Comment expliquer d'une autre manière ce dévouement qui s'offrait à elle sans condition? Pourquoi aurait-il risqué de se perdre pour la sauver? Elle-même, d'ailleurs, elle subissait la domination de ses yeux calmes, de ce visage dur. Elle lui tendit la main. « Hâtez-vous, j'ai peur. » Peur pour lui? Je ne doutais pas de son dévouement, mais je ne sais plus. M'obéira-t-il? Oui, il a peur, lui aussi. Il se défie de moi, cependant? Non, je ne crois pas. Ouvrira-t-il sa porte? Frappez deux fois, à trois reprises. Vous n'avez pas entre vous quelque signe de ralliement? Oh non, cette façon de frapper suffit. Comme il la quittait, elle le retint. Que dois-je faire? Partir? Non, ne bougez pas d'ici. Quand l'alerte sera terminée, d'ici une heure, je reviendrai et nous aviserons. Et si vous ne pouvez pas revenir? Rendez-vous vendredi, square de la Tour Saint-Jacques. Il réfléchit en murmurant. Voyons, tout est bien réglé. Je ne laisse aucune place au hasard. Allons-y, et ne bougez pas d'ici, je vous en conjure. » Il épia dehors. Le couloir n'était plus désert comme d'habitude. Il y avait des allées et venues qui marquaient le début d'une agitation dans l'hôtel. Il attendit, puis se risqua. Une première étape le mena devant la grille de l'ascenseur. Personne. Il courut jusqu'au numéro 337 et vivement frappa selon le rythme convenu. Un froissement de pas à l'intérieur. La serrure fonctionna. Il poussa le battant, vit Bimiche et lui dit ce qu'il avait dit à la jeune femme. « L'hôtel est cerné par la police. On perquisitionne. » Il n'en fut pas avec l'Anglais comme avec Alexandra. Il n'y eut ni résistance d'une part, ni effort de l'autre pour imposer une volonté agressive. Entre les deux hommes, ce fut l'accrochage immédiat. La situation apparut à l'Anglais telle qu'elle était, et la peur le courba aussitôt, sans qu'il cherchât à deviner pourquoi Victor l'avertissait. D'ailleurs, s'il comprenait bien le français, il le parlait à peine. Victor lui dit « Il faut m'obéir, et tout de suite. On fouille toutes les chambres, car on croit que l'Anglais du bar de la rue Marbeuf se cache dans l'hôtel. Vous serez un des premiers interrogés, comme suspect, à cause de votre prétendue foulure. Entre nous, le prétexte n'est pas très malin. Il fallait ou bien ne pas revenir ici, ou bien ne pas vous enfermer dans votre chambre. Avez-vous des papiers dangereux, des lettres ?»« Non. Rien qui puisse compromettre la princesse. »« Rien. » »« Farceur, donne-moi la clé de ton cet armoire. » L'autre obéit. Victor démolit la pile des chemises, saisit le foulard de soie et l'empocha. « C'est tout ? Oui. »« Il est encore temps. C'est bien tout ? Oui. » « Je te préviens que si tu essaies de trahir la princesse Vassilieff, je te casserai la gueule. Prépare tes bottines, ton chapeau, ton pardessus. Tu vas décamper. »« Mais la police, » fit Bimiche. « Silence. Tu connais la sortie de l'hôtel sur la route Ponthieu ?»« Oui. Il n'y a qu'un agent qui la garde. » L'Anglais fit signe qu'il boxerait cet agent et passerait de force. Victor objecta. « Non, pas de bêtises, tu serais pincé. » Il prit sur la table une carte correspondance avec l'inscription de l'hôtel, écrivit « Laissez passer, data » et signa « Commissaire Moléon ». « Montre cette carte à l'agent de faction. La signature est exacte, j'en réponds. Et alors, file sans broncher et sans te retourner. Et au coin de la rue, le pas gymnastique. » L'Anglais montra l'armoire pleine de son linge et de ses effets, ses objets de toilette, et eut un geste de regret. « Eh bien, vrai, ricana Victor, qu'est-ce qu'il te faut encore? Une indemnité? Allez où, c'est à près de toi. » Bimiche prit ses bottines, mais au même instant on frappa. Victor s'inquiéta. « Crénom, si c'était eux! Oh, tant pis, on se débrouillera. » On frappa de nouveau. « Entrez !» cria-t-il. L'Anglais jeta ses bottines au bout de la chambre et s'allongea sur un canapé. Comme Victor allait ouvrir, on entendit le bruit d'une clé. C'était le valet d'étage qui se servait de son passe-partout. Deux inspecteurs l'accompagnaient, des collègues de Victor. « Au revoir, cher monsieur, » dit-il à l'Anglais en exagérant son accent de sud-américain. « Ravi que votre jambe se porte mieux. » Il se heurta aux agents. L'un d'eux lui dit avec beaucoup de politesse « L'inspecteur Roubaud de la police judiciaire, nous faisons une enquête dans l'hôtel. Puis-je vous demander depuis quand vous connaissez monsieur ?»« Oh, monsieur Bimiche, oh, depuis quelque temps. » Dans le hall, il m'a offert un cigare. Depuis qu'il s'est foulé le pied, je viens le visiter. Il déclina son nom. Marcos Avisto. Un Péruvien, n'est-ce pas? Oui, vous êtes sur la liste des personnes auxquelles le commissaire désire poser quelques questions. Voulez-vous avoir l'obligeance de descendre au bureau? Vous avez vos papiers sur vous? Ah non, ils sont dans ma chambre, à cet étage. Mon collègue va vous accompagner. L'inspecteur Roubaud regardait sur le canapé la jambe de l'Anglais, la cheville bandée, et sur la table voisine les compresses toujours prêtes. Il dit d'un ton plus sec « Vous ne pouvez pas marcher, vous ? Non. » « Le commissaire va donc venir ici. Préviens-le, » dit-il à son collègue. « En attendant qu'il arrive, je vais examiner les papiers de l'Anglais. » Victor suivit le collègue, il ricanait en lui-même. Pas une fois l'inspecteur Roubaud, cantonné dans la mission qu'on lui avait de confier plus spécialement à l'égard de l'Anglais, n'avait eu l'idée de l'examiner, lui, Victor, avec un peu d'attention. Et pas un instant non plus, certainement, l'inspecteur Roubaud ne songea qu'il restait seul, enfermé avec un homme suspect. et sans doute armé. Victor y songea, lui, et tandis qu'il recueillait dans l'armoire de sa chambre les papiers authentiques qu'il accréditait en tant que Marcos Avisto, il se disait en observant son gardien « Que vais-je faire ? D'un croc en jambe, je le jette à terre, je l'enferme ici, et je me glisse dehors par la rue de Ponthieu. Mais était-ce bien utile ? Si Bimich est directement visé, se débarrassait ainsi de Roubaud et s'évadait grâce à la fausse carte signée de Moléon, que pouvait redouter Victor, lui ? Il se laissa docilement conduire. L'hôtel, cependant, s'agitait. En bas, le hall et le large vestibule se remplissaient de voyageurs ou de clients, curieux, bruyants, indignés, si on les priait de ne pas sortir. Malgré tout, il y avait du désordre, et dans son bureau, le commissaire Moléon, qui commençait à être débordé, montrait de l'humeur. À peine s'il jeta un coup d'œil sur Victor, qu'il adressa tout de suite à l'un de ses assistants. Il ne se souciait évidemment que du sieur Bimich, contre qui s'élevaient de fortes présomptions. « Eh bien, et l'anglais » demanda-t-il à l'agent qui avait accompagné Victor. « Tu l'amènes pas ?»« Ben, il marche pas à cause de sa foulure. »« Des blagues, il me semble louche ce bonhomme-là. Hein, gros, n'est-ce pas, figure rouge. »« Oui, une moustache en brosse, très courte. »« Très courte, oh, pas d'erreur. »« Roubaud est resté avec lui ?» « Oui, ben j'y vais, accompagne-moi. » L'intrusion furieuse d'un voyageur que pressait l'heure du train et qui était inscrit sur la liste retarda Moléon. Il perdit là 2 minutes précieuses et 2 autres encore à donner des ordres. Enfin, il se leva. Victor, qui en avait fini avec l'examen de ses papiers et qui ne demandait d'ailleurs aucun laissez-passer, le retrouva dans l'ascenseur avec l'inspecteur et un autre agent. Les 3 policiers ne parurent même pas le regarder. Au 3e étage, ils se hâtèrent. Moléon frappa fortement au 337. « Ouvre-moi, Roubaud !» Il recommença, aussitôt irrité. « Ouvre-moi donc, nom d'un chien, Roubaud, Roubaud !» Il appela le valet de chambre, le sommelier d'étage. Le valet déboucha de l'office, sa clé en main. Moléon le bouscula, de plus en plus inquiet. La porte fut ouverte. « Nom de Dieu !» s'écria le commissaire. « Je m'y attendais. » On apercevait dans la chambre, par terre, attaché avec des serviettes et un peignoir de bain, bâillonné, l'inspecteur Roubaud qui se débattait contre ses liens. « Pas blessé, hein, Roubaud ? Oh, le bandit, ce qu'il t'a ligoté ! Mais comment t'as-tu laissé faire, un gaillard comme toi ?» On délivra l'inspecteur. Roubaud grinçait de rage. « Mais ils étaient 2 !» mâchonna-t-il hors de lui. « Oui, 2 !» Oh, d'où sortait l'autre ? Il devait être caché. Il m'a attaqué par derrière, d'un coup sur la nuque. » Moléon agrippa le téléphone et commanda. Que personne ne quitte l'hôtel, pas d'exception, vous entendez, pas d'exception. Toute personne qui essaierait de s'enfuir doit être arrêtée, aucune exception n'est admise. Et il proférait dans la chambre. Ainsi, ils étaient 2 ici, mais d'où sortait l'autre, le second ? Tu ne t'es douté de rien, dit-il au collègue de Roubaud, mais cherche donc, Bouffi. Avez-vous visité la salle de bain ? C'est là qu'il se cachait pour sûr. « Je crois, » dit Roubaud, « j'en ai eu l'impression, je tournais le dos à la salle de bain. » On la visita, aucune indication. Le verrou de la porte qui la faisait communiquer à l'occasion avec la chambre voisine était poussé normalement. « Qu'on fouille, » ordonna le commissaire, « qu'on fouille à fond. Roubaud, tu viens, c'est en bas qu'il faut agir. » Il écarta les gens attroupés dans le couloir et il marchait à gauche vers l'ascenseur lorsque des clameurs arrivèrent du côté droit. Le couloir desservait le vaste quadrilatère que dessinait l'hôtel Il était probable, comme le fit remarquer Roubaud, que Bibiche avait choisi le côté droit pour gagner la façade postérieure qui domine la rue de Ponthieu. « Oui, mais l'harmonia est de garde, dit Mauléon, et la consigne est formelle. » Les clameurs augmentaient. Dès le premier tournant, ils virent des groupes à l'extrémité. On leur fit signe, on les appela. Dans un renfoncement qui formait comme un salon d'hiver, encombré de palmiers et meublé de fauteuils, des personnes étaient penchées sur un corps étendu que l'une d'elles venait de découvrir entre les caisses de deux palmiers. Roubaud déclara « L'anglais, oh, je le reconnais, il est couvert de sang. »« Comment, Bibiche, mais il n'est pas mort, hein ?»« Non, dit quelqu'un qui à genoux auscultait la victime, mais sérieusement touché, un coup de couteau à l'épaule. » « Alors quoi, Roubaud ?» s'écria Mauléon. « Mais ce serait l'autre. Ce serait celui qui était caché et qui t'a frappé dans le dos. »« Barbleu, oui, ben, il a voulu se débarrasser de son complice. Heureusement qu'on l'aura, puisque toutes les issues sont interdites. » Victor, qui n'avait pas quitté les deux policiers, n'attendit pas, et à la faveur du tumulte, s'échappa vers le second escalier qu'il dégringola rapidement. Au rez-de-chaussée, la sortie de la rue de Ponthieu était proche. Des domestiques de l'hôtel en encombraient les abords où veillaient l'harmonia et deux inspecteurs. Victor fit signe à l'harmonia qui manœuvra de façon à pouvoir lui parler. « Impossible de passer, Victor, la consigne. »« Oh, t'inquiète pas, je me débrouillerai sans toi. On t'a présenté une carte ?»« Oui. » Un faux, tout probable. Cré bon sang. Le type affilé, dame. Son signalement. Oh, pas fait attention, jeune d'allure. Alors, tu ne sais pas qui c'était? Non. Mais Arsène Lupin. La certitude de Victor, tout de suite, elle s'imposa spontanément à tous ceux qui vécurent ces minutes d'affolement, où se mêlait, comme d'habitude avec Lupin, un côté comique de la bouffonnerie et des airs de vaudeville. Mauléon, blême et déconcerté, affectant un calme que démentait sa pâleur, siégeait en permanence dans le bureau de la direction, ainsi qu'un chef d'armée en son quartier général. Il téléphonait à la préfecture, réclamait des renforts, expédiait des estafettes d'un bout à l'autre de l'hôtel, donnait des ordres contradictoires qui faisaient perdre la tête à tout le monde. On criait « Lupin ! Oh, c'est Lupin ! Il est bloqué ! On l'a vu !» L'anglais Bibiche passa, couché sur un brancard. On le portait à l'hôpital Beaujon, et le médecin de service affirma « La blessure n'est pas mortelle, demain il pourra être interrogé. » Puis ce fut Roubaud qui arriva de la rue de Ponthieu, très agité. « Il s'est enfui par derrière. Il a remis à l'harmonia une carte signée de vous, chef. » Mauléon protesta violemment. « Mais c'est un faux. Je n'ai pas signé une seule carte. Fais venir l'harmonia. Ma signature n'est même pas imitée. Il n'y a que Lupin pour avoir un culot pareil. » « Monte dans la chambre de l'anglais, examine l'encrier, la plume, s'il y a des cartes de l'hôtel. » Roubaud repartit comme une flèche. 5 minutes plus tard, il revenait. « Mais l'encrier est encore ouvert, oui, le porte-plume n'est pas à sa place. Il y a des cartes de l'hôtel. » « Donc le faux a été commis à cet endroit, tandis que tu étais ficelé. »« Non, je l'aurais vu. » L'anglais a mis ses souliers, et puis ils se sont trottés. Mais ni l'un ni l'autre ne savait qu'on enquêtait. Oh, peut-être. Par qui? Quand je suis entré dans la chambre, il y avait quelqu'un avec l'anglais, un type du Pérou. Ah, Marcos Avisto, qu'est-il devenu celui-là? Nouvelle envolée de Roubaud. Personne, dit-il à son retour. La chambre est vide, trois chemises, un costume, des objets de toilette, une boîte de maquillage dont on vient de se servir et qui n'est même pas refermée. Le Péruvien a dû se grimer avant de filer. Un complice, certainement, dit Moléon. Ils étaient donc trois. Monsieur le directeur, qui habitait la chambre située à côté de la salle de bain, occupée par Bimiche. On consulta le plan de l'hôtel. Le directeur déclara très étonné. Mais cette chambre était louée à monsieur Bimiche. Comment cela? Et depuis le début de son séjour, il avait pris les deux chambres. Ce fut de la stupeur. Mauléon résuma. Ainsi donc, selon toutes les vraisemblances, on peut affirmer que les trois compères habitaient les uns près des autres au même étage. Marco Savisto, numéro 345, Bimiche au 337 et Arsène Lupin dans la chambre voisine qui lui servait de retraite depuis sa fuite du bar de la rue Marbeuf et où il se remettait de sa blessure, soigné, gardé et nourri par Bimiche avec tant de discrétion et d'habileté que le personnel de l'étage ne s'est même pas douté de sa présence. Toute cette situation fut exposée devant Monsieur Gauthier, le directeur de la police judiciaire, qui venait d'entrer et qui avait écouté l'exposé de la situation fait par le commissaire Mauléon. Monsieur Gauthier approuva, se fit donner quelques explications supplémentaires et conclut. Bimiche est pris. Si ce n'est pas Lupin qui a usé de la carte, il est encore dans l'hôtel. Et en tout cas, le Péruvien s'y trouve, lui. Les recherches sont donc singulièrement plus faciles et toute consigne peut être levée. Un inspecteur à chaque entrée surveillant les allées et venues. Moléon, veuillez visiter les chambres. Visite courtoise, sans perquisition ni interrogatoire. Victor vous assistera. Moléon objecta. Mais Victor n'est pas ici, chef. Mais si. Victor? Oui, parfaitement, Victor de la brigade mondaine. Quand je suis arrivé, nous avons échangé quelques mots. Il causait avec ses collègues et avec le portier de l'hôtel. Appelez-leur, Hubo. Victor se présenta, guindé dans son veston trop étroit, l'air renfrogné comme à l'ordinaire. Ah, vous étiez donc là, Victor? Demanda Mauléon. J'arrive, répondit-il, juste le temps de me faire mettre au courant. Ah, tous mes compliments, l'arrestation de l'Anglais, c'est un gros atout. Oui, mais Lupin. Ah, ça, Lupin, ça me concerne. Si vous n'aviez pas précipité les choses, je vous le servais tout rôti, votre Lupin. Que vous dites? Et son complice, Marco Savisto, un Brésilien. Tout rôti également. C'est un de mes bons amis, ce Marco, un garçon charmant et rudement fort. Il a dû vous passer sous le nez. Mauléon haussa les épaules. Oh, si c'est là tout ce que vous avez à dire. Ma foi, oui. Cependant, j'ai fait une petite découverte, oh, insignifiante, et qui n'a peut-être pas de rapport avec notre affaire. Quoi encore? Sur votre liste, n'y a-t-il pas un autre Anglais du nom de Murding? Oui, Harvey Murding, il était sorti. Je l'ai vu qui rentrait. J'ai questionné le portier à son propos. Il occupe une chambre au mois où il couche rarement et où il ne vient qu'une fois ou deux par semaine, l'après-midi. Une dame, toujours la même, élégante, soigneusement voilée, l'y rejoint et ils prennent le thé ensemble. Cette dame, qui l'attend parfois dans le hall, est venue tantôt avant que Murding fût arrivé et devant l'agitation et le tumulte ici, elle est repartie. Peut-être serait-il bon que l'anglais Murding soit convoqué. Hubo, vas-y, ramène-nous l'anglais Murding. Hubo s'élança et ramena un monsieur qui n'avait certainement pas le droit de se faire appeler Harvey Murding et qui n'était certainement pas anglais. Mauléon, qui le reconnut aussitôt, s'écria fort surpris. Comment, c'est vous, Félix Deval, l'ami de Gustave Jérôme? Le marchand de bière de Saint-Cloud, C'est vous qui vous faites passer pour anglais ? Félix Deval, l'ami de Gaston Jérôme, le marchand de biens de Saint-Cloud, avait l'air assez penaud. Il essaya bien de plaisanter, mais son rire sonnait faux. Oui, n'est-ce pas ? Oui, ça m'est commode d'avoir un pied-à-terre à Paris quand je vais au théâtre. Mais pourquoi sous un autre nom ? Bon, une fantaisie, et vous avouerez que cela ne regarde personne. Et la dame que vous recevez ? Une amie ? Une amie toujours voilée, mariée peut-être ? Non, non, mais elle a ses raisons. L'incident paraissait plutôt comique. Mais pourquoi cette attitude embarrassée, ces hésitations ? Il y eut un instant de silence. Puis Moléon, qui avait consulté le plan, prononça. Mais la chambre de Félix Deval est également au troisième étage, tout près du petit salon d'hiver où l'on a frappé l'anglais Mimiche. M. Gautier regarda Moléon. La coïncidence les frappait tous les deux. Devait-on voir en Félix Deval un quatrième complice ? Et la femme voilée qui lui rendait visite ? N'était-elle autre que la dame du ciné Balthazar et que la meurtrière d'Elisa Moisson ? Ils se tournèrent du côté de Victor. Celui-ci haussa les épaules et formula avec ironie. « Oh, vous allez trop loin. Je vous ai dit que l'incident était secondaire. Un hors-d'œuvre, pas davantage. Tout de même, il faut l'éclairer. » M. Gautier pria Félix Deval de se tenir à la disposition de la justice. « Parfait, conclut Victor. Maintenant, chef, je vous demanderai de me recevoir un de ces proches matins. »« Du nouveau, Victor ? Certaines explications à donner, chef. » Victor, qui se dispensa d'accompagner le commissaire Moléon dans l'exploration de l'hôtel, jugea prudent d'avertir la princesse Basileïev. L'arrestation de l'anglais, Bimiche, pouvait amener, en effet, des révélations dangereuses pour elle. Il se glissa donc dans la pièce du standard téléphonique et, toutes consignes étant levées, pria la demoiselle de lui donner la communication avec le numéro 345. Le numéro 345 ne répondit pas. « Assistez donc, mademoiselle. » Nouvel appel inutile. Victor alla s'enquérir auprès du portier. « La dame de l'appartement 345, est-elle sortie ?»« Oh, la princesse Basileïev. Oh, elle est partie à 1 heure environ. » Victor reçut un choc désagréable. « Partie tout d'un coup ? Oh non, tous les bagages ont été enlevés hier, et sa note payée de ce matin. Oh, il ne lui restait qu'une valise. » Victor n'en demanda pas davantage. Après tout, n'était-il pas naturel qu'Alexandre Basileïev s'en fût allé et que l'on ne se fût pas opposé à son départ ? Et d'un autre côté, qu'est-ce qui l'a contraigné à attendre son autorisation à lui, Victor ? Tout de même, il enrageait. Lupin évanoui, Alexandra disparue. Où et comment les retrouver ?